Eh bien, mes amis, en ce 19 février, nous prêtons maintenant notre dernier exposé. Nous aurons encore un moment de communion cet après-midi, mais notre dernier exposé sur l'effet divin et nos sentiments est ce premier volet qui nous a occupés depuis vendredi soir, mort et ressuscité avec le Christ. On a regretté peut-être hier soir que je n'ai pas assez traité des questions que je vous avais posées, paraît-il. Et je reviendrai simplement sur ces questions pour que tout soit bien compris. La première de ces questions, d'après les lectures que je vous avais données, était celle-ci: comment s'opère l'union du chrétien avec le Christ? Et je veux croire que vous avez quand même compris que cette union du chrétien avec le Christ s'opérait par la foi, par une appropriation des faits divins. Notre union avec le Christ s'approprie par, ou se réalise par la foi au Seigneur Jésus. C'est ce que vous avez dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous le sommes par la foi. Et qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, c'est l'appropriation, je m'approprie ce sauveur qui s'est donné pour moi. Dieu me l'a donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de Jésus? Il faut être méchant, 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 comme je suis moi, par nature, pour ne pas vouloir de Jésus. Ne pas accepter Jésus, c'est le plus grand des péchés. Vous pouvez penser que le péché, ça n'existe pas. Eh bien, ce qui m'a convaincu de péché, moi qui n'avais pas tué ni volé, eh bien, c'est réellement de ressentir que je n'avais pas l'amour pour Dieu. Dieu qui allait parfaitement aimable, et puis moi j'aimais tout autre chose que Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas alors en moi. Et j'ai été convaincu de péché, non pas parce que j'avais fait des choses graves, extraordinaires, mais je n'aimais pas. Au fond, le péché, c'est ne pas aimer. Ne pas aimer Dieu. Tous les commandements sont résumés dans ce grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est la manifestation visible de notre amour pour Dieu. Si je n'aime pas mon prochain, je ne peux pas prétendre que j'aime Dieu. Or, justement, je constate bien souvent que je n'ai pas d'amour pour le prochain. Alors, ça me convainc de pécher. Ça me convainc de pécher, parce que si j'aimais Dieu, j'aimerais la créature de Dieu. De sorte que le plus grand des péchés, c'est la transgression du plus grand des commandements. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras, de sorte que si je n'aime pas, eh bien, je suis le plus grand des pécheurs. Et c'est ce que Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a pu dire dans son témoignage, qu'il était le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs. Il dit. Mais pourquoi? Pourtant, selon la justice qui venait de la loi, c'était un pharisien, un homme religieux, il avait toutes sortes d'avantages selon la chair, c'était un homme qui avait une conduite irréprochable, et pourtant il dit, je suis le premier des pécheurs. Alors quand quelqu'un vous dit, vous savez, moi, je suis trop pécheur, hein, parce que vous en avez aussi qui vous disent cela, je suis trop pécheur, Dieu ne peut pas me pardonner. Eh bien, on peut lui répondre, tu ne peux pas être le premier des pécheurs, il y en a un autre avant toi. Le premier des pécheurs, c'est l'apôtre Paul. Il a pris ce titre, le premier des pécheurs. Vous pouvez vous mettre en suite. C'est quand même encourageant, au fond. Hein? C'est encourageant pour vous. Alors, je veux croire que vous avez quand même saisi, même si j'ai pas bien expliqué ça hier soir, eh bien, que vous avez quand même compris que la foi, c'est l'appropriation des faits divins. Dieu m'a donné Jésus, et ce Jésus, je ne le laisse pas, je le saisis. Je saisis le Christ, je l'accepte comme mon sauveur. Mais évidemment, je l'accepte comme mon sauveur, pour quelle raison? Qui est-ce qui a besoin d'un sauveur? Des perdus, mais si vous ne réalisez pas que vous êtes perdu, vous ne pouvez pas être sauvé. Et Jésus vous le dit, je ne suis pas venu pour des justes, pour des bien portants, mais pour des pécheurs. Sinon, bien vous n'avez pas besoin de Jésus, mais sachez-le, quand vous serez devant Dieu, toute vos justices, toute votre propre justice, vous apparaîtra comme un vêtement souillé. C'est pas Dieu qui vous repoussera, mais c'est vous qui vous précipiterez dans les ténèbres du dehors, parce que vous ne pourrez pas vivre dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, avec vos vêtements souillés, ces vêtements dont vous vous glorifiez, votre honorabilité et tout cela, aux yeux du Dieu trois fois saint, quand vous serez devant cette lumière fulgurante, vous aurez horreur de vous-même. Mais vous auriez dû avoir horreur de vous-même avant. C'est dans la vie qu'il faut avoir horreur de soi-même. C'est dans cette vie terrestre que nous devons prendre conscience de ce que nous sommes devant Dieu. Notre état devant Dieu. Relisez Romains chapitre 1er et chapitre 2 et 3. Vous verrez qu'il n'y a point juste, pas même un seul. Il faut admettre cela. Et alors, quand je suis convaincu de péché, alors j'ai besoin d'un sauveur. Et j'apprends qu'il est mort pour mes fautes et que je ne suis pas condamné parce que je suis un pécheur. C'est quelque chose de merveilleux. De sorte qu'il y a d'abord la joie du salut. La joie du salut. On a la paix avec Dieu. C'est le chapitre 5. Mais voilà, ensuite, on fait cette expérience que si nous sommes délivrés de la peine du péché, si nous savons que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois, et que nos péchés ne sont plus sur nous, mais qu'ils sont sur lui, et qu'il les a enlevés de devant la face de Dieu, il a été enseveli avec nos péchés. C'est bien ce que Jean-Baptiste disait quand il a vu Jésus pour la première fois. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, au Québec, on devrait savoir ça, hein, puisqu'on prétend que Saint Jean-Baptiste est le patron du Québec. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, ils ont été ôtés du monde. C'est pas pour que nous vivions toujours dans le sentiment du péché et de la culpabilité. Jésus est venu et il est vraiment notre sauveur. Un sauveur parfait. Mais alors voilà, je découvre que malgré que je suis sauvé de la peine du péché, j'ai encore toute espèce de tendance en moi. Et c'est là que vous entrez dans ces fameux chapitres 7 des Romains. Quand vous lisez le chapitre 7 des Romains, vous voyez une âme qui est réveillée, hein, qui a connu quand même, qui connaît le Seigneur, mais qui maintenant voudrait le suivre. Et alors, elle se souvient qu'il y a la loi, n'est-ce pas, que nous transgressions avant, puis on voudrait pouvoir accomplir la loi, mais par nos propres efforts. Et puis, on fait la découverte que c'est une faillite. Et c'est là qu'il y avait la deuxième question, quel est le rôle de la loi dans le salut? La loi n'a pas été donnée pour que nous puissions l'accomplir et être sauvé par les œuvres de la loi, mais elle nous a été donnée pour nous prouver notre incapacité de faire le bien. Parce que on est toujours convaincu qu'on peut faire quelque chose. Et il faut que vous en arriviez à cette certitude que vous ne pouvez pas. Le péché, c'est une question qui est réglée, mais il y a maintenant la chair, parce qu'on est encore dans des corps de chair, et la chair, elle est faible. Et vous pouvez avoir des bons désirs maintenant que votre esprit est réveillé, mais la chair est faible. Alors le rôle de la loi, c'est de vous convaincre encore une fois de plus que vous êtes, vous avez une nature qui est pécheresse et qui ne peut pas s'améliorer. Et c'est cela que nous montre Romains chapitre 7. Pour nous amener à crier, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Je sais que Christ est mort pour mes péchés, je crois que son sang me purifie, que je suis lavé, mais voilà, je voudrais glorifier le Seigneur. Puis, tout en ayant de bons désirs, je retombe dans les fautes passées. Et nous arrivons alors à Romains 8. Mais comment? Quand on accepte Romains 6, comprenez-vous? Que non seulement Christ est mort pour vos péchés, mais que vous êtes mort avec lui. La mort de Christ devient votre mort. Tous les faits qui se sont passés en Jésus doivent se reproduire en vous. Et c'est cette certitude dont vous devez vous emparer. Et c'est une délivrance. C'est vraiment une délivrance. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours malheureux. Il faut que vous acceptiez que non seulement vous êtes pécheur et que le Christ a porté vos péchés, mais que vous êtes incurable. Et qu'il n'y a qu'une solution, c'est la mort. C'est la mort. Mais comme je le disais hier, cette mort, vous ne pouvez pas vous suicider, mais Jésus est venu pour rendre possible notre mort. Quand vous acceptez Christ, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous prend avec lui. Mais il vous mène où? À la croix. Et les clous qui l'ont transpercé, vous cloue, vous aussi, quant à votre vieille manière de vivre, qui est appelée le vieil homme. Vous êtes cloué avec le Christ, vous êtes identifié au Christ. Christ vous a tellement aimé qu'il a bien voulu prendre votre vie de péché, votre vie de turpitude, tout ce qui n'est pas allé. Il prend votre vie et vous en avez fini avec votre vie. Aussi vrai que le Christ est mort, vous êtes mort avec le Christ. C'est aussi vrai cela que ce que vous croyez que Christ est mort pour vos péchés. C'est ça le petit salut. On se borne à dire aux gens que Christ est mort pour leurs péchés, comme ça ils n'auront pas à souffrir dans l'éternité, ils n'auront pas en enfer. Est-ce que c'est ça seulement? Non. Le grand salut, c'est de comprendre que non seulement le Christ est mort pour vous, mais que vous êtes mort avec lui. Que cette mort, vous vous l'appropriez. Et que désormais, vous devez vous tenir pour mort. Comment? Par quoi? Par la foi. Vous êtes sauvés par la foi pour vivre d'une vie de foi. Le juste vivra de foi. Le salut, c'est pas quelque chose qu'on met dans sa poche. Le salut, c'est quelqu'un qui vient vivre en nous et qui réalise réellement notre mort. De sorte que quotidiennement, nous portons toujours, c'est un verset capital dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 4, verset 11, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus puisse se manifester. Là où la vie de la chair voudrait se manifester, nous apportons dans la foi la mort. Je suis mort, je me tiens pour mort. Et étant mort, eh bien, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes plus sous la loi qui vous donnait une obligation, vous essayez de faire, mais sous la grâce. Et alors, étant gracié, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la louange. Je me souviens du jour où je n'ai plus toujours pleuré sur ma misère, parce que moi j'étais un type qui pleurait sur ma misère. Et je me souviens, j'étais dans le canton du Valais, puis je me disais, mais comment est-ce que je fais? Puis le Seigneur m'a dit, mais tu ne me crois pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne serais pas ton sauveur si tu n'étais pas un grand pécheur. Je ne serais pas ton sauveur. Alors au lieu de me lamenter sur ma misère et d'essayer d'accomplir la loi, puisque Dieu me dit que je ne le peux pas, imbécile que je suis, mais est-ce que nous pouvons être des imbéciles, hein, et combien nous devons réellement revenir au Seigneur. Oh, donne-moi ta lumière, pourquoi pleurer sur moi et me lamenter toujours? Réjouis-toi, entre dans la louange, loue ton Seigneur, tu as un grand sauveur. Et dès que je pense à mon grand sauveur, je suis libéré. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais c'est une appropriation quotidienne, c'est tous les jours, et c'est à chaque minute, c'est à chaque instant. J'ai des pensées, vous pouvez pas empêcher les mouches de voler. Hein. Les mouches, ça va partout. Mais vous pouvez les chasser. Mais vous ne pouvez pas empêcher les mouches de voler. Elles viennent, ça vient. Oui. Mais ça vient du dehors. Alors, maintenant, nous avons saisi cela. Alors, nous ne décidons plus de jeter. Nous nous réfugions dans le Seigneur comme dans une sphère. Et nous nous tenons pour morts. Je crois, je suis mort, Seigneur. Et alors vous arriviez au chapitre 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Vous devez vivre avec ça. Il n'y a aucune possibilité de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et je l'ai bien montré, dans le Christ Jésus, c'est comme dans une sphère. Vous êtes en lui comme dans une sphère, enveloppé de toutes parts. Il n'y a plus de possibilité de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est parce que lui a eu la condamnation totale. Il a été condamné à notre place. Alors maintenant, qu'est-ce qui naît dans votre cœur pour lui? L'amour. Et c'est par amour que vous ferez toutes choses en lui. Vous avez reçu sa vie, et sa vie, c'est son esprit. Son esprit est maintenant en vous. Vous l'avez lu ce verset dans le chapitre 4, de 3, de la deuxième aux Corinthiens. J'espère que c'est déjà une des questions d'aujourd'hui, hein. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'Esprit, puis il y a le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Il est l'Esprit. Mais où est l'Esprit du Seigneur? Il y a la liberté. Vous n'êtes plus sous une loi de contrainte, du « tu dois » et « tu ne dois pas », mais maintenant, vous faites les choses par amour. Mais il faut que vous ayez alors un objet devant vous. Et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer dès le début. L'objet qui doit être, qui doit canaliser toutes les affections de vos cœurs, c'est Jésus. C'est une personne. Jésus doit être l'objet de votre amour. Il est vraiment... Jésus, c'est l'amour du Père. Il a satisfait pleinement le Père. Alors, il ne pourrait pas vous satisfaire? Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus ne puisse pas vous satisfaire? C'est que vous ne le connaissez pas encore assez. Si vous connaissiez Jésus, si nous connaissions Jésus, nous aurions la satisfaction. Il peut satisfaire pleinement tous les désirs de notre cœur. De sorte que nous ne serons plus tentés d'aller ailleurs. Il y a un mot qui m'a frappé au Québec. Vous dites souvent, je suis tenté. Hein. On est tenté, je suis tenté de ceci, je suis tenté de cela. Dans mon vieux pays, et c'est plutôt un terme qui montre qu'on est tenté vers le mal, mais ici on est tenté vers le bien. Mais vous trouvez que c'est abominablement beau, hein. C'est très drôle, hein. C'est affreusement beau. Affreusement beau, ça va pas ensemble. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses comme ça, comme aussi quand les Québécois sacrent, ils sortent tout ce qu'il y a dans l'église. Pour sacrer, vous savez qu'en France, on dit les saints, mais bon. Mais... ce qui m'avait frappé, c'est d'entendre des jeunes qui sacraient, je l'ai déjà raconté ça,
Puis il y en avait un autre, un camarade, qui lui disait, oh ben tu pourrais arrêter, il dit cathédrale, il y a tout dedans. Il disait calice, hostie, ciboire. Il lui dit cathédrale, il y a tout dedans. C'est très drôle. Mais j'ai essayé aussi de m'adapter, de comprendre cette mentalité. Et puis d'aimer surtout, parce qu'il y a une richesse, il y a une potentialité dans ce Québec. C'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose de merveilleux. Mais alors, cette potentialité que vous avez là, dans votre âme, et ne faites pas que ce soit le corps, les sens qui influencent cette potentialité, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est libre en vous, hein, parce que c'est dans la liberté, laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre en vous, et vous serez transformé en à son image. C'est pas vous qui vous transformerez péniblement, puis alors on est essoufflé, puis on n'en peut plus, hein, puis on devient cardiaque. Non, c'est pas ça. Laissez-vous faire. Et c'est le Seigneur qui vous transformera. Être transformé à son image. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'exemple de Marie. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté de se laisser faire. Elle a reconnu l'impossibilité. Hein, c'est impossible pour moi. Je ne connais pas d'homme. C'est pas une œuvre humaine, non. Mais l'ange lui répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est ça que vous devez croire. Ce que moi je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Mais il ne va pas vous obliger. Il voudrait que vous donniez librement. Que vous vous apportiez librement, parce qu'il respecte votre liberté. Alors il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et vous allez relire vous-même ce chapitre 8 des Romains qui vous montre pourquoi Jésus a pris ce corps de chair, mais comment nous sommes affranchis de la loi du péché. Vous voyez, une loi, on ne peut pas la contourner, hein. C'est, enfin, on essaye de la contourner, mais on ne peut pas. On a pris souvent cet exemple, hein. La loi de la pesanteur, hein. Si j'ai ce stylo, il est très bien, je l'ai reçu d'une amie de Belgique. Son mari est mort, et puis elle m'a donné ce stylo. J'ai appris l'autre jour qu'il était en platine, mais je ne le savais pas, je n'avais pas vu. Si vous voulez me le voler, vous je ne le savais même pas, mais j'avais pu aider son mari dans sa mort, et puis voilà, sa femme m'a donné ce stylo qu'il venait de recevoir après 50 ans de service à Bruxelles. Puis moi, j'avais exactement 50 années de ministère. Alors elle me l'a donné, il est marqué 50 ans. Mais ce stylo qui est très bien, si je l'exhorte, hein, je dis, reste là-haut, qu'est-ce qu'il subit? Il subit la loi de la pesanteur. Hein. Alors je peux l'exhorter, mais il subira la loi de la pesanteur. Alors on peut dire que la loi du péché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait tomber. Et ce stylo, il est parfaitement inutile. Hein. Mais si je l'ai en main, ce stylo, je peux m'en servir. Alors, qu'est-ce qui peut affranchir mon stylo de la loi de la pesanteur? Laissé à lui-même, il subit la loi de la pesanteur. Mais si la loi de la vie, qui est dans mon bras, prend le stylo, j'affranchis le stylo de la loi de la pesanteur. Alors, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais vous ne pouvez pas y aller contre la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas vous qui pouvez vous délivrer. Vous l'avez compris? Vous comprenez cela? J'ai pris cette image du stylo, mais enfin, je veux croire que vous comprenez cela. C'est dans la main, quand vous êtes dans la main de Jésus, c'est lui qui vous a franchi, c'est lui qui vous tient de vous. Alors ne l'abandonnez pas. Nul ne vous ravira de... Ben, vous le croyez? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus.
Puis qu'est-ce qu'il a dit encore? Que nul ne nous ravirait de la main de son Père. Alors, est-ce que le Père peut s'éloigner de vous? Le Père a été satisfait par l'œuvre de son Fils. Et maintenant, il ne vous voit plus que dans les perfections de son Fils. Pour Dieu, vous êtes mort. Mort et enseveli. Et alors, comment vous voit-il? Dans les perfections de son Fils. Si vous voulez trouver votre vrai portrait, ce n'est plus dans Romains 3 que vous allez le voir. Celui-là, il est enseveli. Romains 3, nous l'avons vu que c'était un comme portrait. C'est pas beau. Mais ça, c'est le vieil homme. Il est enseveli. Dieu ne voit plus cet homme-là. Et il vous voit dans les perfections de son Fils. De sorte que si vous voulez contempler ce que vous êtes, regardez qui? Jésus. Regardez le Seigneur. Fixez les yeux sur Jésus. Nous tous, contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Et qui est-ce qui opère cette œuvre? C'est le Saint-Esprit. Alors laissons le Saint-Esprit nous remplir. Soyez remplis de l'Esprit. Et dans la mesure où l'Esprit prend possession de tout notre être, eh bien, nous serons rendus utiles au Seigneur. Oui, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, vous voyez que c'est confirmé ça, la loi avait été donnée, mais parce que les hommes pensaient qu'ils pouvaient faire le bien. C'est la prétention qu'ils ont eue au pied du Sinaï. Ils ont dit à Moïse, demande-lui une loi et nous l'accomplirons. Alors Dieu dit, tiens, je vais vous donner la loi. Et il a donné les 10 commandements. Et alors ils ont dit, eh bien, nous ferons tout ce que le Seigneur nous a dit. Et quand ils ont eu la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont transgressé. Ils ont dû reconnaître qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir la loi. Et alors maintenant dans le christianisme, et c'est ça qui m'afflige, et qui me montre bien qu'on n'a pas compris le vrai message du christianisme, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de retraites, quel est le grand thème que l'on prend? Les béatitudes. Jésus a apporté les béatitudes, oui. Mais quand vous parlez des béatitudes, il y a la suite. Après avoir dit les 8 bienheureux, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a repris la loi de Moïse. Et il a développé la loi de Moïse. Il a dit, Moïse vous a dit ceci. Et il n'a pas supprimé la loi. Il leur a bien montré. Moïse a dit cela. Et c'est vrai, il n'y a pas un trait de lettre de la loi qui disparaîtra. Mais moi, je vous dis que ça va beaucoup plus loin. Que si vous n'avez pas tué, vous n'êtes pas encore indemne. Si vous n'avez pas volé, vous n'êtes pas encore pur de la convoitise, parce que si vous convoitez quelque chose qui n'est pas à vous, vous êtes déjà sur le chemin du vol. De sorte que quand on est en présence du sermon sur la montagne, bien vraiment, on a une conviction de péché encore plus profonde, De sorte que ce n'est pas les paroles de Jésus qui nous ont sauvés. Ce n'est pas le sermon sur la montagne qui vous sauve. Vous pouvez apprendre les béatitudes et réciter les béatitudes. Et avec le récit des béatitudes, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes bien heureux? Face aux béatitudes, on est drôlement malheureux. N'est-ce pas? Pratiquement, on est malheureux. Ce qui allait nous sauver, ce n'est pas le serment sur la montagne, ce ne sont pas les paroles que Jésus a prononcées dans sa vie. Ce qui devait nous sauver, c'était quoi? Sa mort. Et c'est cela que vous devez comprendre. Jésus ne vous a pas sauvé par sa vie, il vous a sauvé par sa mort. Cette vie qu'il a vécue, il vous l'a donnée pour qu'elle devienne la vôtre. Mais pour qu'elle devienne la vôtre, fallait qu'il la donne. Et comment est-ce qu'on donne sa vie? En mourant. C'est pourquoi l'Eucharistie, la Sainte Cène, on y rappelle quoi?
Sa mort.
Sa mort.
au rappel de sa mort. Parce que c'est de cette mort que germe la vie. Et dans le domaine végétal, vous le savez aussi, pour qu'il y ait du fruit, il faut d'abord qu'il y ait la mort du grain de blé. Puis après, vous aurez un épi. Mais si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. Alors comprenez bien cela, la nécessité de la mort de Christ. Et c'est dans sa mort que nous avons la vie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a revêtu un corps de chair, ressemblant de chair de péché, mais il était sans péché, mais il a pris un corps de chair pour que le péché que nous, nous avons commis dans notre chair, hein, cette chair-là qui est, que nous avons dans l'âme et le corps, dans l'homme tout entier, la chair, nous étions devenus chair, eh bien, le péché a été jugé dans une autre chair, dans une chair qui était sans péché, mais semblable à la nôtre. Mais pour qu'il puisse mourir, il fallait qu'il prenne un corps de chair. Eh bien, le Seigneur a accepté, lui qui était sans péché, d'être couvert de nos péchés, afin que le péché que nous, nous avons commis dans la chair, soit jugé dans sa chair. Mais le péché a été jugé dans la chair. Ce péché que moi j'ai commis dans la chair a été jugé dans la chair, de sorte que Dieu est satisfait et les droits de la loi sont satisfaits, de sorte que la loi ne peut plus rien nous redemander. Vis-à-vis de la loi, nous sommes rendus justes. Une fois que la loi, les exigences de la loi ont été exécutées, eh bien, on ne peut plus rien contre le pécheur. Et c'est cela, la délivrance. Vous êtes délivré du joug de la loi. Et c'est le chapitre 7, vous êtes mort même à la loi. Alors vous n'êtes plus sous la loi, c'est une autre économie. Ça ne veut pas dire que vous allez transgresser la loi, ce n'est pas cela. Mais vous êtes libéré de ce joug. Vous n'êtes plus sur le « tu dois, tu ne dois pas ». Vous êtes maintenant conduit par l'Esprit. Le souffle de Dieu vous anime. Et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Mais nous sommes encore dans le monde. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi dans les Galates, là on arrive dans les questions que nous avons posées aujourd'hui, aussi dans les lectures que vous avez faites, dans les Galates, nous voyons que nous ne sommes pas seulement morts au péché et aux convoitises, nous pouvons nous tenir pour morts vis-à-vis des convoitises, mais nous sommes aussi morts au monde. Alors, nous lisons maintenant dans les Galates, les versets que vous avez déjà lus, et qui vont être une confirmation, parce que je crois davantage à ce que vous lisez dans la parole que vous exposez que je peux vous faire. Verset 16 du chapitre 5. Marchez selon l'esprit. Est-ce qu'il est dit faites des marches? Occasionnellement, d'un coup vous vous réveillez. Et puis vous faites une marche pour le Seigneur. Non. Marchez selon l'esprit. Et si tous les jours nous avons l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la. La chair, elle est encore là, tant qu'on est dans nos corps. Ce sont quand même des corps de chair. Mais comme vous l'avez lu dans le chapitre 8, vous n'êtes plus redevable à la chair. Ce n'est plus la chair qui va dominer, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est maintenant le maître en route. Avant, c'était la chair. Mais qu'est-ce qui dominait la chair? C'était Satan, de sorte que nous étions esclaves des mauvais désirs de Satan, l'orgueil, la convoitise, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, nous sommes sous une autre direction, la direction de l'esprit. Alors, marchez selon l'esprit, vous n'attirez pas les convoitises de la chair. La chair et l'esprit sont en opposition. Et, car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a une force qui vous est donnée pour ne pas faire ce que vous voudriez. La chair, elle n'a pas changé, elle voudrait toujours certaines choses. Mais voilà qu'il y a en vous cette puissance qui va combattre contre la chair. Alors remettez-vous entre les mains de l'esprit, laissez l'esprit agir. Et dès que vous voyez que quelque chose ne va pas, eh bien, condamnez-vous, jugez-vous vous-même. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, verset 18, vous voyez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Alors, est-ce que vous devez prendre un dictionnaire pour savoir ce que c'est? Les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche. C'est un fruit de l'esprit. De l'esprit satanique. L'impureté. Fruit de l'esprit. C'est une œuvre. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités, les querelles, et on les tolère? Si j'ai un esprit de querelle, qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, je m'en juge. C'est bien ma chair, ça, mais ça ne vient pas de l'esprit. Les divisions, mes amis, ne viennent jamais de l'esprit. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les textes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On est souvent frappé, n'est-ce pas? Les excès de table, on n'en parle pas beaucoup. Pour les œufs de la chair. Notre santé irait beaucoup mieux si on était libéré des excès de table. Je me souviens d'une personne qui disait que, quand j'étais dans les vieux pays encore, là, que un serviteur de Dieu qui avait trop mangé, quand il revient de la réunion après avoir... Et il avait vraiment trop mangé et il est malade. Et qu'est-ce que la brave sœur qui le loge fait pour lui dire comme je lui mets une bouillotte, alors qu'il doit être... recevoir une raclée, il a trop mangé. Mais si on voit ce serviteur entrer dans un restaurant, une auberge, pour boire, mais modérément, juste quelque chose, on commencera de le critiquer et de dire mille choses contre lui. N'est-ce pas? On n'est pas correct. D'abord, on n'a pas à se juger. Vous ne savez pas ce qu'il est allé faire là-dedans. Mais nous ne sommes pas vraiment guidés par l'esprit souvent. Les effets de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent cette chose n'hériteront point du royaume des cieux. Mais voilà, on peut encore commettre ces choses, mais ça ne doit plus être un état. Je me juge de cela. Si je n'ai pas veillé. Et alors, en opposition à ces œuvres de la chair, nous avons le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et vous voyez, le fruit, c'est le fruit de la vie. Le fruit de l'esprit, c'est la vie qui donne ce fruit. Ce n'est pas un effort. Nous sommes hantés, nous sommes greffés sur le Christ. Nous sommes dans le test, et puis alors le serment peut produire du fruit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, c'est l'ensemble de toutes les grâces. Il ne faut pas dire, bien moi j'ai l'amour, puis vous avez la joie, puis un autre a la paix. Non, c'est un ensemble. L'ensemble de toutes les grâces sont à vous. Et cela vous donne une personnalité attrayante dans laquelle le monde peut reconnaître quelque chose de Christ.
En lui, vous voyez toutes ces perfections. Et c'est ces perfections-là qui seront manifestées en vous si vous le laissez agir. Christ en vous, à l'espérance de la gloire. La loi n'est pas contre ces choses. Donc vous voyez, si il y a le fruit de l'esprit, la loi, elle est réalisée en vous. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais est-ce que c'est moi qui peux me crucifier? Non. Quand il dit « ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs », c'est à la croix que cela a été fait. Vous avez accepté d'être crucifié. Crucifié. Et c'est votre chair qui a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Alors, vous voyez, on ne peut plus se glorifier quand on arrive à cela, à comprendre cela. Ma justice, c'est celle de Christ. Ma sanctification, c'est celle de Christ. Ma sagesse, c'est celle de Christ. Ce n'est pas moi, c'est lui. Vous avez là Galates aussi, chapitre 2, verset 20, ce merveilleux verset qui apporte une si grande délivrance. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus le vieux moi. Le vieux moi, il est crucifié. Il est mort et je dois le tenir pour mort. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, parce qu'on est encore dans la chair, hein, on est encore dans un corps de chair, mais on ne vit plus selon la chair. On vit dans la chair comme Jésus a vécu dans la chair, mais il n'a pas vécu selon la chair. Il n'a pas péché. Il a vécu dans la chair, mais guidé par la volonté du Père, ne faisant rien qu'il n'avait vu faire par le Père, ne disant rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Je m'approprie le Fils de Dieu. Constamment, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, parce que tout est là, il m'a aimé. Est-ce que vous êtes conscient d'être aimé? Ça me désole des fois de penser qu'il y a tant de gens qui manquent d'amour et qui ne se savent pas aimer. Est-ce que vous savez que vous êtes aimé? Aimé de Dieu, mais dans quelle mesure? C'est dit souvent. Hein? Comment Dieu vous aime-t-il? Voulez-vous avoir la mesure de l'amour de Dieu pour vous? Il vous aimait comme il aimait. Il vous aime comme il aimait son Fils. Que Dieu ait aimé son Fils, vous le comprenez. Eh bien, l'Écriture nous dit que Dieu vous aime comme il a aimé son Fils. C'est Jésus qui l'a dit. Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est des textes qui ne doivent pas rester dans la Bible, qui doivent être dans votre... Je suis aimé de Dieu. Vous comptez pour Dieu. Si vous ne comptez pas pour votre entourage, vous comptez pour Dieu. Est-ce que ça vous suffit? Alors, si vous êtes sûr de ça, que Dieu vous aime, ça c'est un fait. Dieu vous le dit, vous êtes aimé. L'amour de Dieu, il a été manifesté comment? Il a donné son Fils. Donc, c'est quelque chose, c'est un fait. Jésus est venu, il vous a été donné. Et maintenant, Jésus vous a aimé parce qu'il aimait le Père. Il connaissait l'amour du Père pour sa créature et il a voulu lui ramener sa créature. Voilà l'œuvre merveilleuse de la rédemption. Mais il voulait que nous puissions vivre devant Dieu sans conscience de péché. Là, nous touchons à un autre point. Sans conscience de péché. Pour quelle raison? Comment est-ce que vous pouvez être sans conscience de péché, vous qui étiez pécheur? Que Jésus les a expiés, c'est fait. On ne peut plus rien vous redemander. Vos péchés ont été expiés dans la chair d'un autre. Il a pris cette chair pour que vous ayez maintenant votre conscience à l'aise. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que les gens ont mauvaise conscience. C'est une mauvaise conscience qui détraque l'homme tout entier et qui amène aussi toute espèce de maladies, de choses déprimantes. Eh bien, le Seigneur voudrait que vous ayez une conscience nette. Et cette conscience nette, vous l'avez en lui, dans son œuvre. Quand vous vous appropriez son œuvre, vous pouvez paraître devant lui sans conscience de péché. Vous vous rendez compte que devrait être nos cultes quand on pense à cela? On ne vient pas au culte pour confesser nos péchés, on vient au culte pour louer Dieu de ce qu'il nous a délivré de nos péchés. Et qu'on peut le regarder en face. Une conscience libre. Non pas parce que je n'ai pas péché, mais parce que j'ai confessé mes péchés. Et je les ai abandonnés. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne, obtiendra miséricorde. Alors il est question là de savoir confesser nos péchés. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc c'est lui qui nous purifie de toute iniquité et l'on peut être libre devant Dieu. Et alors, pour traverser ce monde, justement parce qu'on est dans le monde encore, bien vous avez Galates 6 que vous avez lu, où il est dit au verset 14e, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul a réalisé que c'est à la croix qu'on a toutes les délivrances. Délivrance du péché par notre mort avec Christ. Délivrance du joug de la loi. À la croix, la justice de la loi a été satisfaite. Le salaire du péché, c'était la mort. Eh bien, la mort a été exécutée. L'exécution a eu lieu, mais dans la personne d'un autre, de Jésus. Mais maintenant, donc, je peux être libre. Mais c'est à la croix que j'ai eu tout cela. Délivrance du péché, délivrance de la loi, et puis aussi, quand je suis dans ce monde, bien, qu'est-ce que je vois? Et c'est là que je vous ai montré ce qu'était la chair qui sont qui est habituellement les parties molles de l'être, n'est-ce pas? C'est un des sens à la chair, puis on a vu les autres sens qu'il a, que ce mot a. Mais ici, le monde. Bien, le monde a trois sens différents dans l'Écriture. Il y a le monde, l'univers, hein? Le ciel et la terre. Dieu a créé le monde. Il l'a créé beau, grand. Le monde est merveilleux. En tant que création, c'est la scène où l'homme devait jouer le rôle que Dieu lui avait imparti. Mais hélas, l'homme a chuté et c'est le diable qui est devenu le prince de ce monde. Et il a tout corrompu. Alors nous vivons dans ce monde. Mais Dieu a aimé le monde. Alors là, le monde, le mot monde, c'est le sens de l'humanité. Il a aimé les hommes. C'est le sens du mot monde. Il y a donc le sens cosmologique, puis aussi il y a le sens historique. Dieu a aimé le monde, les hommes qui sont dans le monde. Mais dans l'épître de Jean, il est dit, n'aimez pas le monde. Alors là, le monde, ça a un autre sens. C'est le monde comme système. L'arrangement des affaires humaines sur la terre, où Dieu n'a aucune place, n'est-ce pas? Alors ce monde-là, nous ne devons pas l'aimer. Et c'est dans ce monde-là qu'il y a toutes les convoitises. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela se trouve dans le monde. Et c'est ce monde-là que nous n'avons pas à aimer. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, dit Jean au chapitre 2 de sa première épître, l'amour du Père n'est pas en lui. Et qu'est-ce que c'est que l'amour du Père? C'est Jésus. Comprenez-vous? L'amour du Père n'est pas en lui. Alors, quand on nous dit, mais est-ce que c'est mal de faire ceci, est-ce que c'est mal de faire cela? On n'est plus sous la loi, ce n'est plus cela. C'est pas ainsi qu'on doit raisonner. Est-ce que c'est du monde ou est-ce que c'est du Père? Il faut être catégorique. Hein? Et c'est très vite tranché. Est-ce que ce que vous vous proposez, est-ce que c'est du monde ou bien est-ce que c'est du Père? Au lieu de dire, oh, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est du monde ou est-ce que c'est du Père? Si ce n'est pas du Père, eh bien c'est du monde. Alors je vais. Vous direz, mais alors j'ai une vie tout à fait étriquée. Qu'est-ce que j'ai si j'ai pas le monde? Vous avez le Créateur du monde. C'est quand même un peu plus que le monde. Parce que la création, ça passe. La figure de ce monde passe. Mais si vous avez le Donateur, vous avez toutes choses. Mais il faut en faire l'expérience. Il faut en faire l'expérience. Mais pour cela, il faut avoir renoncé. C'est quand on a renoncé que l'on a tout. Vous avez tout pleinement. On dit, si c'est pas vrai, brûlez vos billes. Vous avez tout pleinement en lui. Nous devons le croire. Alors, l'apôtre Paul peut nous dire ici que par la croix, eh bien, le monde lui est crucifié et lui l'est au monde. Comment ne plus aimer le monde? Quelle idée avoir du monde, de ce monde de télé, de ce monde de péché dont nous avons parlé, de cette sphère dans laquelle nous entrons dès notre naissance, et qui était la scène où Dieu voulait nous faire vivre, mais qui est enténébrée par la puissance de Satan. Comment me faire une idée du monde? Où est-ce que j'apprends ce qu'est le monde? C'est là, mes amis. Il y a eu un homme qui est né dans le monde, mais qui était sans péché, et qui nous a montré ce que c'était qu'un homme céleste, un homme du ciel, un homme qui vivait à la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que les hommes ont fait, Jésus? Il a guéri leurs malades. Et toute la vie de Jésus, relisez l'évangile. Est-ce qu'on aimait Jésus? Il arrive dans une contrée qui s'appelle Gadara. Et puis et là, il y a des juifs. Et qu'est-ce que ces juifs font? Des affaires. Ils élèvent des cochons. Est-ce que le juif devait manger du porc? Non. Non, non, on était religieux. Ils n'en mangeaient peut-être pas, mais comme les païens mangeaient du porc, ils exportaient les cochons. C'est comme nous en Suisse, on ne faisait pas la guerre, mais on faisait des armements. On tuait par main interposée. Donc, quand j'ai dit ça en 1940, j'ai risqué de me faire fusiller. C'est mon Suisse. Pour montrer notre responsabilité, on était neutre. Neutre pour le fric, n'était pas si neutre que ça. Alors, c'est ça qui est terrible. Mais quand on est dans la main du Seigneur, il y a des choses qu'on doit dire. Il nous emploie comme un canal. Évidemment, alors, vous avez des oppositions, et des oppositions qui viennent des gens religieux. Qui viennent surtout des gens religieux, parce que les affaires sont les affaires. Un brave chrétien m'a dit, les affaires sont les affaires, les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Grande séparation. Le hiatus, hein. Alors, on a les affaires, on a les choses de Dieu. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Et c'est cela que le monde attend. Si on avait été chrétien authentiquement dans toutes nos affaires, eh bien, il y a bien des choses qui se passeraient autrement. Peut-être qu'il n'y aurait pas les syndicats. Non, mais j'ai rien contre les syndicats, comprenez-vous? Mais il n'y aurait pas tout. Si vraiment il y avait eu des maisons pilotes, le partage aussi des bénéfices, tout cela c'est dans l'Écriture. Mais qui veut faire cela? Non, c'est d'abord l'argent, c'est d'abord le gain, toujours le gain, et c'est l'injustice. Où on fait des cadeaux, mais il n'y a pas de paternalisme dans l'Écriture. Il y a la justice. Mais le programme, on pourrait prendre une fois le Lévitique pour montrer les lois que Dieu avait données à son peuple et qui n'ont jamais été établies. Les congés payés, vous croyez que c'est moderne? C'était déjà dans l'Écriture. L'année sabbatique, vous croyez que c'est quelque chose de moderne? C'était dans l'Écriture, l'idée de Lévitique. Payer d'une façon correcte ses ouvriers, c'était dans le Lévitique. Et il fallait même payer le soir même. C'était pas au bout d'un mois seulement. Alors tout cela, mais on est en retard, chers amis. Revenez à l'Écriture et vous aurez un programme. Mais on s'est éloigné de Dieu. On parle des droits de l'homme. Mais les droits de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Si nous respections les droits de Dieu, qu'est-ce que nous respecterions? Les droits de l'homme. Puis de la femme aussi. Il n'y aurait pas besoin de tout cela. Quand on revient au centre, tout est dans l'harmonie. Comprenez-vous? Tout est dans l'harmonie. Et c'est à cela que nous devons revenir. Mais, pour en arriver à ce qu'est le monde, à Gadara, il y avait donc ces cochons-là, et il y avait un homme qui était possédé d'un esprit immonde, et Jésus le guérit, le libère, alors que c'était la terreur du coin. Il vivait dans les sépulcres, le Seigneur le libère. Mais les esprits ont demandé au Seigneur la permission d'aller dans les pourceaux. Vous pourriez dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet cela? Parce qu'il les frappe dans leur péché. Comprenez-vous? Alors, les pourceaux dévalent dans la mer. Parce que Satan est un meurtrier. Alors, comme il ne peut pas rester en possession de l'homme, eh bien, il essaiera de nuire au Seigneur. Et quand les propriétaires des pourceaux voient cela, qu'est-ce qu'ils demandent au Seigneur? De s'en aller. Non, cochon! Va-t'en, Seigneur. Heureusement qu'il est revenu. Le Seigneur est revenu quelque temps après. Ils l'ont reconnu. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont reconnu? Et qu'est-ce qu'ils lui ont amené à ce moment-là? Tous leurs malades. Donc il n'y avait pas seulement des cochons là. Ils avaient beaucoup de malades. Et la deuxième fois qu'il est venu, on lui a apporté les malades qui auraient pu être guéris lors de la première visite du Seigneur. Mais qui est-ce qui a témoigné? C'est le démoniaque. Mais vous avez vu, si vous relisez ce chapitre, le démoniaque, quand on a chassé le Seigneur, il voulait partir avec le Seigneur. Il a voulu monter dans la barque. Le Seigneur lui dit, non, non, reste. Moi, je dois partir, mais toi, tu vas... Restez, va dans ta famille et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Et lui est resté, il a obéi au Seigneur et il a publié dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui et c'est ainsi qu'il a préparé le retour du Seigneur. C'est notre tâche à nous aussi pour que d'autres âmes soient sauvées. C'est beau. Il nous laisse là dans le monde pour avoir un témoignage qui parle. Mais c'est pour vous montrer, donc, Jésus, dans toute sa vie, il n'a pas été reçu. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Et ayant tout accompli dans le sens de nous donner un exemple de vie humaine, eh bien, il a attiré la jalousie des gens religieux de son temps, des chefs de son peuple, qui l'ont arrêté et qui l'ont fait condamner par Pilate. De sorte que vous voyez ce qu'est le monde étranger à la vie de Dieu.
Quand il y a eu dans le monde Jésus, qu'est-ce que le monde en a fait? Il l'a crucifié. Et est-ce que Jésus a une place vraiment dans le monde aujourd'hui? Est-ce que les gens sont intéressés quand on leur parle de Jésus, d'une façon générale? Non, ils n'en veulent pas, ça ne les intéresse pas. Et j'ai reçu une lettre l'autre jour de Genève, on me dit, c'est on en a assez de sermons, on en a assez de prédications, on en a à revendre. Et c'est vrai. Des prédications, on en a à revendre. Et peut-être vous dites, ben, il peut dire quelque chose, il a fait que ça jusqu'à présent, ici dans cette maison. Vous en avez peut-être à revendre, dans quelques heures, ce sera fini. Vous n'êtes pas obligé de revenir. Oh, on ne va pas mettre le grappin sur eux. On voudrait que vous puissiez partir libérés, heureux, mais conduits par l'esprit, pas conduits par un homme, pas dominés par les hommes. Cette domination dont on n'a pas voulu celle de Rome, et puis vous acceptez n'importe quelle domination chez nous. Non, nous sommes rendus libres par le Christ. Et alors, dans cette liberté, on peut s'aimer les uns les autres. Et quand on se rencontre, on a un vrai contact. On n'a pas besoin de refaire connaissance. On peut avoir entendu toute espèce de mal sur nous. On est dans la paix. On ne s'est pas laissé influencer. On se connaît parce qu'on le connaît. Et on s'est connu dans le Seigneur. Et notre lien, il est dans le Seigneur. C'est un nos liens. Nous sommes unis en Christ. Et ce sont des liens qui ne peuvent pas être rompus, qui ne peuvent pas être brisés, comme aussi le lien que nous avons avec lui. Alors, moi, j'ai eu la révélation du monde quand j'ai pensé à la croix, comme Paul peut le dire. Le monde m'est crucifié. Et je suis crucifié au monde. Qu'est-ce que le monde a fait de Jésus? Qu'est-ce qu'il fait de Jésus? Et j'aimerais le monde. Le monde ne veut pas de mon Seigneur. Alors, je me sens étranger dans le monde. Vous comprenez? Je n'ai pas à m'efforcer d'être étranger. Je suis étranger. Et vous ne devez pas vous étonner que vous êtes étranger pour certains. Qu'on vous fuira, odeur de vie ou odeur de mort. Si vous avez vraiment la vie du Seigneur, il y a des âmes qui seront attirées à vous. Mais il y en a d'autres qui seront repoussées. Ils ne peuvent pas sentir l'odeur de Christ. Comprenez-vous? Mais vous devez les aimer encore. Vous continuez de les aimer, parce que c'est seulement l'amour qui peut triompher. Alors, c'est ce que Paul nous dit, je suis crucifié au monde. Le monde ne doit pas compter sur moi. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Jésus n'a pas dit qu'il allait transformer le monde, même par l'évangélisation. Il y en a qui se figurent qu'ils ont fait des plans pour qu'en l'an 2000, le monde entier soit évangélisé. Alors ils ont tout planifié. Hein. En l'an 2000, le monde entier. J'en ai prédicateur. Il y aura toujours les enfants de la chair, hein, qui connaissent. Alors, c'est pas ainsi, mais est-ce qu'on a lu la Bible? Est-ce qu'on lit l'Écriture? Est-ce qu'on tient compte de l'Écriture? On n'en tient pas compte. Alors on a un tas d'idées, on a un tas de projets, et puis ça met la chair en avant. Puis on vous demande du fric, on vous demande de l'argent. C'est pas ça. Dieu donne ce qu'il ordonne. Puissiez-vous le comprendre? Le monde m'est crucifié et moi je le suis au monde. J'attends Jésus qui lui va transformer le monde. Mais le monde s'en va au devant de jugement et la terre sera purifiée par les jugements que le Seigneur apportera. Quels étaient les versets que vous avez vu encore? Éphésiens 4 et puis vous les avez lus. Puisque le Saint-Esprit est en vous, n'attristez pas, verset 30, le Saint-Esprit de Dieu que vous avez
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Quand le Seigneur reviendra, nos corps aussi seront changés. Alors, qu'est-ce qui doit être banni de nous? Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur. Ce n'est pas les gros péchés de la chair, hein, c'est, ou du corps. Toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. S'il y a cette racine en moi, je m'en juge, ça doit disparaître. Soyez bons les uns envers les autres, occasionnellement. C'est ajouté à la parole. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et voyez-vous, si souvent nos prières ne sont pas exaucées, c'est qu'on n'a pas pardonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pardonné à son frère, à quelqu'un? Il faut que vous puissiez demander cela. Et puis, on peut lire aussi au verset 17e, hein. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a un renouvellement des pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est exactement notre monde moderne. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. C'est quelque chose de tellement beau. On apprend le Christ. On voit le Christ. On contemple le Christ. Et puis alors, on le contemple. Et on laisse l'Esprit réaliser le Christ en nous. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est dans votre groupe. La vérité, elle est en qui? Elle est en Jésus. Conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. On sait ce qu'était notre vie passée. Alors, on a à se dépouiller du vieil homme. Il est mort, mais il faut lui laisser aussi ses habits. Alors, je ne vais pas porter les habits du vieil homme. Il se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et qui est l'homme nouveau? C'est le Christ en vous, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, alors il y a des choses auxquelles vous renoncez. Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Qu'est-ce que c'est que cette colère-là? C'est la sainte colère, c'est la réaction du bien en face du mal. Mais le Seigneur nous a donné quelques exemples de sainte colère, mais faisons attention de ne pas toujours parler de nos saintes colères. Ils ne sont pas si simples que ça. Et surtout, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça ne devrait pas durer longtemps. Ne donnez pas accès au diable, parce qu'automatiquement, vous donnez accès à Satan. Or, nous sommes aussi délivrés de cette puissance de Satan, mais il faut veiller. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. On pouvait dérober avant, mais on ne dérobe plus. Mais plutôt, travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez, on a une toute autre orientation. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, si vous demandez à Dieu, mais qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Une bonne parole. Et vous savez, les gens s'en souviennent. On peut vous dire 50 ans plus tard, vous nous aviez dit telle parole, et c'est cette parole qui m'a conduit à la vérité. Les gens s'en souviennent, nous on ne s'en souvient pas. Soyez bons les uns envers les autres. Et voilà, vous avez le chapitre 5. Maintenant, on a lu aussi dans Colossiens. Alors, dans Colossiens, au chapitre 23,
3, et surtout ce chapitre-là, qui nous édifiera dans la retraite, si nous sommes encore en vie, au mois d'octobre, et qui aura comme thème donc le deuxième volet, qui sera « Votre vie est cachée dans le Christ en Dieu ». Une vie cachée dans le Christ en Dieu. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, dans le chapitre 3 des Colossiens, verset 5, il est dit « Faites donc mourir, ou tenez-vous pour mort, comme il l'est dit. Hein. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Et vous avez de nouveau la débauche. C'est plus pour nous. La dureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. On retrouve un peu ce qu'on a vu ailleurs. Hein. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce que c'est les fils de la rébellion? Ceux qui n'obéissent pas. Ceux qui ne se donnent pas au Seigneur, fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Mais oui, il y a un autrefois dans notre vie, aux yeux maintenant. Lorsque vous viviez dans ces péchés, on vivait dans ces péchés. Maintenant, on ne vit plus là-dedans. On peut y tomber, mais on ne peut plus en y vivre. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et alors là, vous avez de nouveau les choses auxquelles vous renoncez. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez, on peut faire beaucoup de mal avec des paroles équivoques. Et on souille les âmes. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. C'est fini, le vieil homme, c'est la troisième fois qu'on le trouve, mais il est considéré comme mort. Et de ses œuvres. Les œuvres du vieil homme, c'était les œuvres que lui inspirait la chair et le péché. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni québécois anglais, ni québécois français. Ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tout. Vous trouvez que c'est merveilleux ça. Arriver à cela. Que je puisse voir en vous Christ. Christ, tout en tous. En tous. Quelle que soit votre race, votre nationalité. Christ, tout en tous. C'est ça que nous devons voir chez nos frères. Christ, tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Alors voilà les nouveaux vêtements. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les vêtements du nouvel homme. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Voyez-vous, on peut dire qu'il y a les vêtements, puis il y a aussi les sous-vêtements, la pitié intérieure, viennent par-dessus, mais par-dessus toute chose. Il y a encore un par-dessus comme vêtement. Un par-dessus, c'est quoi? Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Celui qui aime, il ne se trompe pas. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Puis, vous avez l'exhortation du verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement ou avec abondance. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, c'est ce que nous allons essayer de réaliser cet après-midi, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Il doit y avoir un chant dans nos cœurs. À l'issue de cette retraite, vous devriez pouvoir entendre un chant dans vos cœurs. Le chant du Seigneur. Et alors, pour la suite, quand vous quitterez ce lieu, quoi que vous fassiez,
En parole ou en œuvre? Parce que vous allez parler encore. Hein? Mais maintenant, il y a un contrôle sur vos paroles. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Vous allez être en présence de certaines choses. Hein? Vous devez agir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose au nom du Seigneur Jésus? Si oui, alléluia. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu par lui. C'est pour moi ce verset 17 du chapitre 3 des Colossiens, c'est un verset clé de la vie chrétienne. Est-ce que je peux rendre grâce à Dieu par lui pour cette chose-là? On est dans le monde. Jésus, il était dans le monde. Et vous savez, le monde où était Jésus n'était pas meilleur que maintenant. Les Romains étaient sur le territoire. On crucifiait quotidiennement les esclaves. Lui-même allait être crucifié. Il y avait la haine. Relisez les évangiles, vous verrez que le monde était le monde. Mais Jésus ne faisait rien qu'il n'avait pu faire par le Père, il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Il ne se glorifiait pas, il disait, moi je ne peux rien faire de moi-même. Toutes mes œuvres, c'est le Père qui les fait en moi. Alors, apprenons à vivre dans cette dépendance comme Jésus a vécu. Et nous ferons des expériences merveilleuses. Vous connaîtrez le Père. Vous ne serez pas des orphelins. Et vous connaîtrez Jésus comme le Seigneur de votre vie, comme celui qui guérit. Ce n'est plus le petit Jésus, c'est le grand Seigneur. Il est ton Seigneur, adore-le. Vous vous prostrerez. Vous saurez ce que c'est que l'adoration. Un objet que l'on peut adorer, que l'on peut non seulement aimer, mais adorer. On est dépassé. Alors, je termine maintenant avec ces tableaux. Donc, le Christ ressuscité est monté dans la gloire. Si vous avez reçu Christ dans votre vie, si vous l'avez accepté, la vie éternelle est en vous, dans votre esprit, qui est uni à l'Esprit de Dieu, et qui influence maintenant votre intelligence, votre volonté et vos sentiments, tout ce qui est du domaine de l'âme, de votre moi, parce que ce nouvel homme, bien comme il l'a dit, il ne peut pas pécher. Et c'est le nouvel homme, mais vous avez les deux natures. Alors, une nature, on l'a, mais on la tient dans la mort. Et qui est-ce qui la tient dans la mort? C'est le Saint-Esprit. Alors vous voyez que tout ce qui est dit dans l'Écriture et qui paraît contradictoire se clarifie quand on voit ces choses. Quiconque est né de Dieu, chapitre 3 de la première épître de Jean, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors, vous voyez, ça représente la semence de Dieu hein, en lui. Donc, la semence de Dieu en nous ne peut pas pécher, n'est-ce pas? Mais, quant à ce que je vois là autour, c'est ma chair, et la chair peut pécher, mais j'ai à la tenir pour mort, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, la semence de Dieu ne peut pas pécher. Mais si je ne veille pas, alors évidemment, tant que je suis dans la chair, eh bien, et dans un monde où tout est fait pour nous faire tomber, pour nous pécher, alors il est possible que nous péchions encore. Hein, mais ce n'est pas le nouvel homme qui pêche, c'est la chair qui nous incite à reprendre les habitudes dont nous nous sommes dépouillés et dont nous devons nous dépouiller. Vous voyez ce qu'il a dit, chapitre 1 de la première épître de Jean.
ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, verset 3. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais quand nous marchons dans la lumière, nous allons dire, mais pourquoi est-ce que son doigt nous purifie de tout péché? Mais parce que automatiquement, quand vous êtes dans la lumière, le péché vous est révélé, vous est manifesté. Immédiatement, comme chrétien, on sait qu'immédiatement, le péché est une réalité, mais il nous est manifesté, et alors on s'en juge, et nous, savons, nous ne perdons pas notre salut, mais nous savons que le sang nous purifie. Nous sommes à l'abri du sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait qu'il n'a pas de péché? Nous nous séduisons nous-mêmes, et c'est une terrible séduction. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui va se produire? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons, en fait, c'est pas moi qui nous le dis. C'est l'Écriture qui nous dit, nous faisons Dieu menteur. Alors, que Dieu soit vrai et tout homme menteur, que moi le menteur. Comprenez-vous? C'est pas mes paroles que vous devez écouter, c'est la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin qu'on ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, c'est merveilleux. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et le Seigneur présente à Dieu son sang. J'ai payé pour ce péché. Quand nous confessons notre péché, le Père nous redonne la joie. On ne perd pas son salut quand on a péché, on perd la joie du salut. Ce que David dit dans Livret, psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut. » Si on ne veille pas, on peut tomber bien bas, comme l'a fait David. Mais si nous regardons au Seigneur, eh bien nous sommes gardés du péché. Verset chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le deviendrons? Ce sont des certitudes, ce sont des faits divins, ce n'est pas un sentiment. Et nous le sommes, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, 19 février 1981, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, parce qu'il y a encore quelque chose, hein, ce que nous serons n'a pas été manifesté. Pour l'instant, nous sommes transformés en la même image quand nous regardons le Seigneur, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et vous savez, cette étoile, elle doit grandir de plus en plus, nous devons être remplis de plus en plus, alors il y a encore de l'espérance, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, parce que le Seigneur qui est venu, il doit revenir, il reviendra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà le Christ dans la gloire, son humanité glorifiée, et quand lui reviendra,
Alors, après cette époque de transformation, depuis notre conversion, là, depuis la régénération, où notre esprit a été régénéré, et il y a la transformation qui s'opère de gloire en gloire dans la mesure où nous contemplons le Seigneur, mais nous serons semblables à lui tel qu'il est. Lui reste Dieu, nous sommes des créatures complètement transformées, renouvelées, manifestation des enfants de Dieu. Nous serons rendus semblables à lui dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous aurons un corps de gloire qui ne sera plus soumis aux lois de la matière, un corps où il n'y aura plus d'infirmité. C'est quelque chose de merveilleux, un corps semblable au Seigneur. Voilà votre espérance. Notre bourgeoisie est dans les cieux, dit l'apôtre Paul aux Philippiens quand il écrit de Rome, d'où nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur, qui transformera le corps de notre humiliation en la conformité de son corps de gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons Jésus. Et quand il viendra, nous serons enfin rendus semblables à lui. Mais tant que nous sommes sur la terre, bien, nous pouvons courir. Nous courons et nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit. Mais ce que nous pouvons lire ici, c'est quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Avant, on pratiquait le péché, c'était notre vie. Mais quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. J'étais à Londres autrefois, et puis j'ai eu cette révélation intérieure. Tu ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Mais si je regarde ailleurs, je suis tout à fait capable de pécher. Mais si vraiment mes yeux sont fixés sur Jésus, si vraiment Jésus est l'ami de mon cœur, mon Seigneur, je suis gardé. C'est pourquoi il a dit, courez la course qui est devant vous, les yeux fixés sur Jésus. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique le péché, qui pratique la justice est juste comme les mêmes élus, mais celui qui pratique le péché est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et j'ai essayé de vous montrer cette semence de Dieu, elle demeure en lui, en nous, et si nous laissons le Seigneur, eh bien, il nous garde du péché, parce que lui ne pêche pas. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un chrétien peut encore tomber, mais il ne pratique pas. Ce n'est plus un état de péché. On peut avoir une chute tant qu'on marche, hein. Mais on se relève. Est-ce qu'on tombe? Est-ce qu'on ne se relève pas? Mais on ne se justifie pas du péché. On condamne le péché. Il est condamné. On ne se justifie pas du péché, on le reconnaît, on le confesse et on en est libéré. Et alors, la dernière pensée que j'ajoute à tout cela pour vous montrer, puisque le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable, dans sa mort, puisqu'on a vu que dans sa mort, nous avons notre mort, la mort du vieil homme, vous lisez dans le chapitre 2 des Hébreux, et là, on aura essayé de couvrir le si grand salut de Dieu. Verset 9 du chapitre 2. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus,
nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Souvenez-vous de cela, Jésus a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Toute la vie de Jésus était une vie de souffrance parce qu'il nous aimait. Car celui qui sanctifie, qui est-ce qui sanctifie? C'est Dieu. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Oh, si cet après-midi nous pouvions nous réunir en étant autour du Seigneur et que le Seigneur puisse dire « Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés » en attendant de nous présenter dans la gloire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, de nouveau vous avez la mort là, afin que par la mort, il rende impuissant qui? Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est encore par sa mort que le Seigneur a vaincu Satan. Il fallait qu'il entre dans la mort. Il le disait dans l'évangile qu'il fallait qu'il entre dans la forteresse de l'homme fort pour piller ses biens. Et en entrant dans la mort, il a vaincu Satan qui avait la puissance de la mort et il en est sorti victorieux. Mais qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui craint la mort ici? Le Seigneur veut le délivrer, qui par crainte de la mort était pendant toute leur vie assujetti dans la servitude. Et bien que le Seigneur nous montre l'immensité de sa délivrance et de cet amour dont il nous a aimés et qui est allé jusqu'à la mort. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à la mort. Alors, en attendant d'être semblable à lui, puissions-nous nous laisser inspirer par son esprit, l'esprit de Dieu et qui veut être le maître dans nos vies.